Dernière rencontre, sous les auspices d'un ciel très très clément. Je ne sais pas si c'est l'influence druidique du lieu ou la personnalité de notre intervenant ou la conjonction des deux. Voilà, ça sera peut-être un sujet qu'on pourra aborder. Pour interroger Monseigneur Dominique Rézeau donc, et animer cette rencontre, c'est le général Jean Guinard. Bon, j'ai pas besoin de vous le présenter, donc qui a lui-même beaucoup exercé à l'étranger et qui permettra donc à Monseigneur Rézeau de nous faire part un peu de l'expérience qu'il a accumulée au cours de toutes ses missions un peu partout dans le monde et se terminant en beauté à Lisieux. Jean, à toi la parole.
Merci. Donc, il me revient l'honneur et le plaisir d'accueillir Monseigneur Dominique Rézeau. Initialement, je pensais ne pas faire de rappel de biographie parce que tout le monde connaît Monseigneur Rézeau. Et si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de lire l'article de la Gazette qui lui est consacré, au mois de le numéro de juillet, et puis même d'aller sur Wikipédia. Mais quand même, je ne voudrais pas laisser la parole à Monseigneur Rézeau sans avoir rappelé les faits saillants de sa vie. Donc, Vendéen, issu d'une vraie famille vendéenne, qui a donné à l'État et à l'Église un prêtre, un colonel de gendarmerie, une religieuse et encore, Monseigneur, d'autres personnes de cette famille. Et donc, Monseigneur Rézeau est ordonné prêtre au diocèse de Luçon en 1974. Après ses études au séminaire, il est nommé par l'évêque vicaire à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en voisin. Donc, l'Île-Dieu, il connaît. Et puis, il est appelé à Rome, à l'Académie pontificale, où sont formés les diplomates du Vatican. Et après 4 ans, eh bien, il commence son long périple à travers le monde, puisque j'en ai fait la liste, car elle est trop longue pour que je sois capable de vous la réciter par cœur. Donc, ses postes, ça va être le Pérou, la République démocratique du Congo, la Suisse, Trinidad et Tobago, la Colombie, la République dominicaine, Washington, la Jordanie, Vienne, où il représente le Vatican aux négociations de l'AIEA, de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ou à l'OSCE, et auprès des organisations internationales, dont beaucoup ont leur siège à Vienne. Et puis il revient à Rome, et là, il démissionne, et se met à la disposition des diocèses qu'il souhaite dans une mission de Fidei Donum. Vous nous expliquerez, Monseigneur, ce que c'est. Et puis, à ce titre-là, il va à Tunis, où il est vicaire général pour le diocèse de Carthage. Et puis, il revient un peu en Vendée. Il repart ensuite à Tripoli, où il sera présent au moment des derniers combats et au moment des dernières destructions. Et il a la chance, c'est lui qui le dit, de pouvoir monter dans le dernier avion qui quitte Tripoli en 2014. Et puis le voilà de retour parmi nous. Et modestement, il accepte de prendre la responsabilité de curé de Saint-Amand à Lisieux. Voilà, rapidement rappeler sa biographie. Je vous répète que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur Wikipédia ou bien consulter les nombreux articles qui lui ont été consacrés. Je ne veux pas terminer sans rappeler que tous les mérites de Monseigneur Rézeau ont été sanctionnés par sa nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur il y a peu de temps, puisque la remise de décoration a eu lieu il y a 15 jours, et qu'il est également membre de l'Académie des sciences d'outre-mer, ce qui est une reconnaissance évidente de sa grande compétence et de sa grande érudition. Voilà, Monseigneur, pour la présentation. Et j'attaque tout de suite. Donc, pour reprendre un certain nombre de préoccupations, de vos questions, j'attaque tout de suite sur la vocation. L'encyclopédie Wikipédia vous définit comme un prêtre catholique, diplomate et historien. Alors, de cette définition, on peut penser que vous avez soit une triple vocation, trois vocations successives. Donc, qu'est-ce qu'il en est, Monseigneur ?
Merci beaucoup. Je crois que vous avez, mon général, presque tout dit. Il me reste à compléter brièvement. Vous parlez de... Merci tout d'abord de m'avoir invité à vous parler. C'est la cerise sur le gâteau aujourd'hui. Et votre question, une triple vocation. Effectivement, quand j'étais enfant, j'avais trois rêves qui se sont plus ou moins réalisés. Je rêvais d'être militaire. Officier, j'avais un frère officier, comme beaucoup des grands-pères, combattants de la Première Guerre mondiale, un pilote de la Première Guerre mondiale, ce qui était quand même assez rare. Donc je rêvais de revêtir un uniforme, quel qu'il soit, de porter les armes, donc rêve militaire. J'avais rêvé d'être ambassadeur. Je trouvais que ça faisait bien. Être ambassadeur, c'était une fonction de représentation. Et puis finalement, au moment d'entrer au lycée militaire, j'ai écrit, j'ai encore gardé la lettre à ma maman, lui disant non, pas de lycée militaire, le séminaire. Elle m'a dit, toi, jamais. J'étais, paraît-il, un peu turbulent. Toujours est-il que je suis entré au séminaire à l'âge de 18 ans. J'ai été ordonné prêtre à l'âge de 27 ans. J'étais, comme vous le dites, quelques années, peu d'années, vicaire en Vendée. La première partie, donc, j'ai réalisé, j'étais prêtre et je le suis toujours, et heureux de l'être depuis 47 ans bientôt. Militaire, je l'étais un peu aussi, puisque pendant quelques années, j'étais aumônier de gendarmerie. Donc, j'ai porté un uniforme d'officier de gendarmerie, avec un beau képi et tout. Pendant 7 ou 8 ans, j'ai un peu accompagné les gendarmes dans leurs missions parfois difficiles. Et puis entre les deux, j'étais diplomate. J'étais quand même pendant près de 25 ans, un peu plus, diplomate du Vatican. Alors, vous citiez tout à l'heure Wikipédia, on trouve de tout, à boire et à manger. Regardez ce que j'ai trouvé. Je suis sur ce Wikipédia, je ne m'y suis pas mis moi-même, bien sûr, quelqu'un a dû m'y mettre. Réaction d'un internaute. Après avoir un peu relu le CV, le mien, je me demande encore en quoi cette personne est notable. À part son tourisme effréné autour du monde, Superman en soutane, qui finit par revenir pour bosser pour la gendarmerie, désolé, je ne comprends pas. Bon, il n'a pas compris. Pour ceux qui n'auraient pas compris, justement, qu'est-ce que c'est un diplomate ? Ce n'est pas vraiment un tourisme effréné autour du monde, même si cela peut apparaître parfois. Un diplomate, vous savez, il y a beaucoup de préjugés sur les diplomates. On dit la diplomatie, c'est l'art de dissimuler, voire de mentir. On dit aussi, j'ai trouvé cette phrase qui... Je demande pardon aux dames. Je demande pardon parce que cette phrase, elle dit, il y a trois sortes de créatures. Il semble qu'elles viennent alors qu'elles s'en vont. Elles semblent s'en aller alors qu'elles arrivent. Ce sont les diplomates, les femmes et les crabes. Alors, la citation n'est pas de moi. Elle n'est pas de moi, bien sûr, et... Je le dis, mais j'en demande humblement pardon à ces dames. Donc le diplomate considéré un suicide, on ne sait pas s'il arrive, s'il part, ce qu'il dit, etc. En fait, la diplomatie, ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. La diplomatie, en plus du Vatican, qui est peu connue sans doute, on disait jadis, on dit ça aussi de la France, que c'est la meilleure du monde. Le cardinal Tardini, qui était secrétaire d'État, disait la diplomatie du Vatican est la première du monde. Alors, il disait, oh là là, alors comment sera la deuxième ? C'était de la modestie, bien sûr. Donc un diplomate du Vatican, que représente-t-il ? L'ambassadeur de France représente la France. C'est un métier difficile, vous le voyez en ces jours, par exemple, avec la situation en Afghanistan. J'étais dans des situations un peu semblables. Le diplomate du Vatican, il représente alors le Vatican. Alors le Vatican, c'est un État, c'est une organisation internationale, c'est une Église. C'est un peu les trois. Pour ceux qui s'intéressent au droit, pour les juristes, le Vatican, c'est trois personnalités juridiques internationales différentes. Trois personnalités juridiques. Ça fait beaucoup. Comme moi, j'ai eu trois vocations, vous voyez. Le chiffre 3, c'est le chiffre trinitaire, donc ça tombe bien. Le Vatican, c'est un État. Un tout petit État. Il y a quelques années, quand le pape Jean-Paul II est venu en France, il y a une association qui s'appelle la Libre Pensée. Libre Pensée qui s'est opposée, bien sûr, à la visite du pape en France en disant « Il est reçu comme un chef d'État. Je me suis bien renseigné, dit ce président, le Vatican n'est pas un État. » Mais il ne s'était pas bien renseigné, puisque le Vatican, c'est un tout petit État de 40 hectares, si mes souvenirs sont bons, qui est enclavé dans Rome, que bon nombre d'entre vous connaissent peut-être, qui comprend la basilique Saint-Pierre, mais aussi tous les bureaux, les appartements, etc. Donc c'est un État, un tout petit État minuscule, qui a sa banque, qui a son gouverneur, qui a ses différentes ses lois propres, son tribunal, sa prison. On lit même quelquefois des cardinaux. C'est assez rare, mais ça peut arriver, quoi. Mais il y a de la moquette. Voilà. Donc, quand j'ai dit trois personnalités juridiques, il y a le Vatican, cet État, ce petit État, d'ailleurs, le SCV, la plaque des voitures, c'est Stato della Città del Vaticano, État de la Cité du Vatican. C'est aussi l'Église catholique. C'est le pape et le chef de l'Église catholique, qui est quand même une grande organisation, puisqu'on compte actuellement 1,8 milliard catholiques dans le monde. Bien sûr, il y a près de 8 milliards d'habitants dans le monde maintenant. Mais bon, l'Église catholique est quand même une force, une communauté présente et présente dans le monde. La dernière personnalité juridique, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui plus directement, c'est le Saint-Siège. Alors c'est un mot un peu bizarre, on dit le Saint-Siège, la Sainte Chaise. Ce que ça veut dire, c'est bien sûr c'est le siège de Pierre. Ça fait allusion au siège de Pierre, le premier pape. Si vous visitez la basilique du Vatican, on conserve encore un fauteuil qui aurait été celui de Saint-Pierre, j'en doute. Mais il est symboliquement, disons, le siège. Donc le Saint-Siège, qui est la personnalité juridique qui permet au Vatican, disons, à l'Église, de prendre position, d'être membre de la communauté internationale. Vous savez que le Saint-Siège est membre, observateur, mais membre des Nations Unies. Il a des représentations diplomatiques actuellement auprès de 183 États. Sur les 193 que compte le monde. C'est-à-dire, le Vatican est représenté dans presque tous les pays du monde, sauf quelques exceptions, Arabie Saoudite, Vietnam, Chine, quelques exceptions, même s'il y a des relations informelles. Alors, diplomate, je l'étais, moi, donc. Comme vous le disiez tout à l'heure, mon général, je suis parti à Rome en 1976, et j'ai vécu hors de France pendant 35 ans, à peu près la moitié de ma vie, quoi. J'ai suivi cette formation à Rome pendant 4 ans. Les diplomates du Saint-Siège font leurs études dans ce qu'on appelle l'école des nonces. Jadis, ça s'appelait l'Académie pontificale des nobles ecclésiastiques. Il fallait avoir des quartiers de noblesse pour être diplomate du Vatican. Actuellement, bien sûr, même les roturiers dont je suis sont acceptés. J'ai fait après mes études de philo, de théologie, j'ai fait un doctorat en droit canonique. Le diplôme d'études diplomatiques, c'est un peu une ENA, quoi. Voilà. C'est-à-dire, c'est un mélange d'ENA et de Sciences Po, on va dire, quoi. Donc c'est une formation assez longue, d'ailleurs, puisqu'elle dure 4 ans. Faite de sciences politiques, de langues, d'histoire, tout ce qu'on peut imaginer dans ce domaine. De connaissances, bien sûr, du Vatican. Mais des relations internationales. J'ai retrouvé, quand je suis entré dans cette formation, ce que j'ai signé. Alors, je ne sais pas si on signe encore ça. C'est en italien, mais je vous le traduis quand même. Le sous-signé. Au moment d'entrer dans le service diplomatique du Saint-Siège, après avoir été approuvé par les supérieurs, avoir passé la visite médicale, déclare d'accepter librement le service diplomatique. Il s'engage à accepter n'importe quelle destination qui lui sera confiée. Dans n'importe quel pays, sous n'importe quel climat, sans poser dans l'avenir aucune condition ni limite d'aucune sorte. Oui, c'est un engagement qui est fort. Hein. Effectivement, quand vous êtes nommé, vous recevez une belle lettre où on vous dit « Le Saint-Père a daigné vous nommer ». Parfois dans un endroit où... Et vous devez considérer ça comme un privilège. Et on remercie le Saint-Père en disant « Je remercie votre sainteté. Je suis parti au fond du Zaïre à une époque redoutable. Le Saint-Père s'était daigné. Donc j'ai accepté. » Alors donc, bon ça c'est la formation, l'école. Après vous m'avez demandé un petit peu, brièvement, la liste de ces pays. Alors je vais vous en faire un commentaire. Je suis parti au Pérou d'abord. C'est loin. À l'époque, c'était très, très loin. Il n'y avait pas de vol direct. 16 000 km, si mes souvenirs sont bons. On partait de Paris, on atterrissait à Cayenne, Manaus et Lima. Mais maintenant, je crois qu'il y a des vols un peu plus directs. À l'époque, c'était compliqué. Moi, je suis arrivé à une époque qui était difficile. C'était l'époque du sentier lumineux. Si vous avez entendu parler, donc ce mouvement maoïste d'extrême gauche, tout ce qu'on peut imaginer de plus extrême que le maoïsme, c'était très très difficile. J'ai fait beaucoup de missions dans les Andes en particulier, là où la guérilla était installée. Je me souviens en particulier, je l'ai cité quelquefois, d'un jour de Pâques où je suis allé. Le seul moyen pour se déplacer, c'était l'hélicoptère. L'hélicoptère à 3000 mètres d'altitude, il faut prendre son souffle. Et accompagné quand même de quelques gros bras pour éviter les incidents de parcours. Et je me souviens d'une fête de Pâques où je suis allé célébrer la messe. Personne n'allait plus célébrer la messe à l'époque, c'était trop dangereux. Moi, je suis allé quand même. Et bon, les gens étaient très heureux. C'était un petit village qui s'appelait Saint-Louis. On a fêté Saint-Louis récemment. Saint-Louis, donc, quand ils m'ont vu arriver, ils ont dit « Saint-Louis, c'est un descendant de Saint-Louis hein ». J'ai eu droit à un petit discours du maire local, l'alcalde, hein, qui sur un vieux haut-parleur avait mis l'hymne national, levé le drapeau et a dit « Tenemos con nosotros un descendiente del rey Saint-Louis hein ». Nous avons parmi nous un descendant de Saint-Louis. J'ai dit « Vous me faites beaucoup d'honneur ». Et donc ça, c'était la partie, disons, c'est très beau, c'était les populations indiennes, indigènes, en grande, grande majorité, quoi, avec une grande foi, une grande piété. Pourtant, ils vivaient sous la menace de la guérilla permanente. Là. Quand on est arrivé, il n'y avait personne dans l'église, elle était vide. Le village était vide, puis peu à peu, ils sont sortis de leur cachette pour la messe. C'était très, très beau, d'ailleurs, c'est très émouvant. Les indiennes, vous savez, qui mâchent la coca d'un côté et l'hostie de l'autre. Voilà. Mais ils font l'un et l'autre avec la même attention et concentration. Donc ça s'est très bien passé. L'après-midi, malheureusement, on est reparti. Et le lendemain, en rentrant à Lima, donc j'ai appris que la guérilla était entrée dans le village, avait réuni sur la place de l'église les hommes qui tous étaient passés à la machette. Donc ça, moi, ça m'a fait beaucoup de... Même quand j'y repense, ça me... Je dis, c'est pas de ma faute, mais enfin, ils ont dit, vous avez laissé entrer les étrangers... Voilà, donc tous les hommes ont... Donc c'était très dur. Le Pérou, je suis arrivé à un moment qui était très, très difficile. C'est ces mouvements d'extrême gauche qui ont presque disparu, mais qui à l'époque étaient... C'était un peu compliqué. Le rôle d'un diplomate dans ce cas-là, c'est d'être présent, quoi. D'être présent, de voir, de regarder, d'informer, d'essayer de travailler pour la paix. Après, pour me récompenser, on m'a envoyé au Zaïre. C'est là que vous avez appelé la République démocratique du Congo, maintenant. Et autrefois, c'était le Zaïre, donc. Hein. Et c'est devenu démocratique par la suite. Plus ou moins. Donc c'est un pays qui, à l'époque, a été gouverné par le maréchal Mobutu, vous vous souvenez, hein, avec lequel, je ne dirais pas que nous sommes devenus amis, mais nous avons entretenu de bonnes relations. Je me souviens en particulier, bon, c'est un climat assez éprouvant, le Zaïre. Hein, c'est 40 degrés jour et nuit, hein, au bord de cet immense fleuve Zaïre. Comme en Afrique, tout est grand, hein, tout est démesuré en Afrique. Que ce soit les arbres, les plantes, les fleurs, tout est démesuré et beau. Et au milieu de ça, une situation assez compliquée. Le maréchal Mobutu, un jour, m'invite... C'était pour annoncer la visite du pape Jean-Paul II à l'époque, qui a visité le Zaïre, je ne sais plus en quelle année, 85 à peu près. Et donc le maréchal Mobutu, je lui transmets l'invitation, il me dit « Venez avec moi ». Si vous avez encore présent, il avait une espèce de toque là, de peau de léopard, un bâton de commandement. Il me dit « Voilà ma jipelle, venez avec moi, monseigneur ». J'ai regardé autour, bon. Et il me dit « Vous n'avez pas peur, monseigneur ». J'ai dit « Monsieur le maréchal ». Ce qui était interdit à l'époque, il fallait dire « citoyen hein, ». On avait supprimé les messieurs, la cravate, tout ça. Moi, j'ai jamais cédé aux citoyens, parce qu'en bon vendéen, le citoyen, ça me... chatouille les oreilles. J'ai dit, monsieur le maréchal, avec vous, j'irai au bout du monde. Ça, c'est le diplomate, vous savez. Moyennant quoi, je suis quand même allé. Il m'a dit, je vais vous montrer mon zoo. Hein, mon zoo. Alors, on part dans sa voiture, en jeep. Et je regarde un peu autour. Il dit, oh là là, le pauvre, qu'est-ce qui va lui arriver? Et il était très malin, ce Mobutu. Il était aussi diplomate à sa façon. Et on passe près d'un lac, un immense lac, près de l'aéroport de Njili, si vous connaissez. Non, pas vraiment. Et c'est ce qu'on appelle le lac des crocodiles. Alors, je sais qu'il l'a fait à d'autres. On passait sur la jeep du maréchal. Là. Il me dit, monseigneur, vous voyez le lac des crocodiles? J'ai dit, oui, on voyait quelques petits museaux là qui sortaient. Il dit, monseigneur, comme vous le savez, je n'ai pas d'opposant. Je vous laisse deviner la suite. Pas la suite, ou ce qui précède, quoi. Les opposants, évidemment, avaient fait une fin nourrissante. Voilà. Donc ça, c'est quelques souvenirs du Zaïre. Il y a aussi des moments plus agréables. Après, on m'a envoyé en Suisse. Après avoir eu très chaud, j'ai eu très froid. Je suis arrivé à Berne, un hiver, l'hiver du siècle, je crois, en 1986, l'hiver du siècle, sous une couche de neige, sans chauffage à l'époque. J'avais un chef de mission qui était très économe, qui éteignait le chauffage la nuit. Quand il fait moins 10, même la nuit, alors moi je ressortais par la petite porte, j'allais rallumer le chauffage. Une demi-heure après, il se relevait, il allait éteindre le chauffage. Bon, il y a eu froid. Donc la Suisse est un peu différente, là il n'y avait pas de grands événements. Sinon, un quand même que vous m'avez demandé de mentionner, qui était un peu triste plutôt, c'est j'étais chargé de suivre la question de Mgr Lefebvre. Hein, ceux qui ont entendu parler de cette division compliquée à l'époque. Donc j'avais un chef de mission, mais j'étais chargé d'affaires, qui était parti en vacances. Il a dit, il y a longtemps que je ne prends pas de vacances, donc pendant tout la question va être se traiter. Vous vous en occupez. J'ai dit merci, c'est gentil. Hein, donc c'est moi qui étais un peu la cible, disons. Donc j'ai dû intervenir plusieurs fois. Mgr Lefebvre était à l'époque dans le Valais, hein, ce qu'on appelle Écône, ce qui commence avec ce séminaire, disons, traditionnel. Je ne ferai pas de commentaires sur le sujet lui-même. Au bon diplomate, moi j'ai exécuté les missions qu'on m'a demandé d'exécuter. Vous savez, c'est important, le diplomate, ce n'est pas quelqu'un qui agit pour son propre compte. Hein. Il agit au nom de ceux qu'il représente. Si c'est le Vatican, si c'est la France, hein. Ses opinions personnelles, on ne veut pas savoir. Hein. Donc je suis allé dans le Valais, porter plusieurs fois une lettre, tout d'abord à Mgr Lefebvre, en lui demandant, il allait ordonner des évêques, vous vous souvenez peut-être, hein, contre la volonté bien sûr du pape. Donc j'ai porté la lettre. Le Saint-Peuple disait de renoncer à ce projet qui allait le mettre dans une situation irrégulière, quoi, et briser l'unité de l'Église. Alors, je me souviens très bien, il m'a reçu là, avec beaucoup d'onction. Il m'a dit, Monseigneur, oui, j'ai bien vu, mais je dois vous dire une chose, l'Église catholique est ici. J'ai dit, Monseigneur, vous pouvez penser ce que vous voulez, moi. Vous avez la lettre, vous allez signer. Et voilà. Bon. Après, Mgr Lefebvre a ordonné quand même des évêques. On m'a dit qu'il faut repartir pour lui porter ce qu'on appelle un document d'excommunication. Hein, ce qui n'est pas une mission très agréable. Hein. Et on m'a dit, allez vite. J'avais un chauffeur qui s'appelait Jésus. Jésus, c'était un bon espagnol, s'appelait Jésus. Et on avait une vieille Ford qui perdait l'eau et l'essence à tous les étages. J'ai dit, allez, Jésus, vite. Et il y a une certaine distance entre Berne et le Valais, donc. Hein. On se fait arrêter par la police suisse, bien sûr. Quoi. Et j'aurais dit, on m'a dit d'aller vite dans le Valais. Ah oui, mais chez nous, la limite de vitesse, c'est 80. Bon, j'ai dit, mais faites vite quand même. Bon. Après, on arrive à Écône, je me souviens très bien, c'était un après-midi très, très, très chaud, là, quand Monseigneur a fait les ordinations d'évêque. Là encore, j'ai transmis mon message, quoi, et je suis reparti en lisant dans une revue peu de temps après qu'un envoyé du Vatican était allé à Écône, ce qui était vrai, pour remettre un document à Monseigneur le Fest, c'était vrai, pour le prier de l'emmener à Rome. J'avais comme mission de le prendre dans ma voiture. J'aurais eu du mal à lui faire traverser les Alpes pour l'emmener à Rome, ce qui, bien sûr, il n'a pas accepté. Et l'article ajouté, nous savons que la mission de ce prélat, moi-même, était en fait, en arrivant au point le plus haut des Alpes, d'arrêter la voiture. Vous voyez, comme quoi on peut écrire n'importe quoi. C'était pas dans mes instructions. Hein. C'était pas dans mes instructions. S'il avait été, j'aurais eu quand même la clause de conscience. Quoi. Bon. Ah bon, alors j'arrête là. Je passe rapidement, je m'arrête à la Colombie peut-être seulement. Parce que quand même, hein, je m'arrête à la Colombie. La Colombie, c'était pas mal à l'époque. Hein. Je suis arrivé à la Colombie en pleine... C'était la phase Pablo Escobar, si ça vous dit quelque chose. Pablo Escobar, donc c'était le règne de la drogue et de la guérilla et de la drogue. Donc c'était une situation très compliquée. On avait devant la maison, devant la mission diplomatique, un char d'assaut. J'avais plus peur du char que des cartels de la drogue. Bon, on a fini par éliminer Pablo Escobar, si on peut dire, quoi. Hein. Et là, j'étais encore seul à l'époque et je reçois les gros bras du cartel qui me disent « Nous demandons l'asile politique pour Madame Escobar, qui n'a rien à voir là-dedans, qui est une agnelle, quoi, hein, hein, vierge. Et c'est demandé, pas avec diplomatie, hein, c'est demandé avec force et menace. Donc bien sûr, j'en ai référé à mes supérieurs, m'ont dit l'heure de question de donner l'asile politique à cette personne, disons, qui était plus qu'impliquée dans le trafic de drogue, elle aussi. Donc là, elle n'est pas entrée, mais c'est moi qui suis parti. Là, on m'a fait comprendre qu'il valait mieux laisser la Colombie, là aussi, à l'époque, pour éviter quelques ennuis. Et voilà. Et puis après, je suis parti aux États-Unis, brièvement, rien à signaler. Revenu à Rome, Libye, on en reparlera. Voilà.
Merci, Monseigneur. Je suis désolé de vous interrompre, car tout ce que vous dites est passionnant. Malheureusement, nous sommes limités par le temps. Et donc, simplement sur cet aspect de votre vie, c'est-à-dire l'action du diplomate, quel est le regard que vous portez maintenant, après vos 30 années d'expérience, sur les relations internationales, sur les organisations internationales, sur leurs acteurs? Quelle est votre appréciation au terme de cette carrière diplomatique?
C'est une question difficile. Hein. On voit en ces jours là ce qui se passe, par exemple en Afghanistan, ce que j'ai vécu un petit peu moi d'une autre façon en Libye. La diplomatie, les organisations internationales sont un rouage qui est essentiel, qu'on ne voit pas souvent. Hein. On parle d'intervention armée, les Américains, etc. Derrière tout ça, il y a évidemment tout un faisceau de contacts, de relations. Et le Saint-Siège, souvent, sinon dans l'ombre, du moins dans la réserve, est très actif hein, dans beaucoup de conflits internationaux par des contacts de présence. Vous savez que souvent on dit le réseau diplomatique du Vatican, c'est pas seulement les diplomates. Dans un pays, bon, je pense en Colombie par exemple, on avait un grand rôle à jouer en particulier pour retrouver les personnes enlevées, etc. L'Église dispose de prêtres, de religieux, de chrétiens dispersés dans tous les pays du monde, pratiquement. Donc il y a tout un réseau d'informations, de contacts qu'on peut mettre en action plus facilement que... Je vois quand j'étais à Bogota, c'est l'ambassade américaine qui venait me demander des renseignements. Je lui disais, vous avez tout ce qu'il faut, vous. Il dit, oui, mais nous, c'est pas pareil. Donc, vous voyez, l'avantage du Saint-Siège dans les relations internationales, c'est de pouvoir intervenir de façon discrète. Hein. Souvent, on n'en parle pas, on ne voit pas. Pour essayer, la diplomatie, c'est le but d'empêcher la guerre, disons. Hein. La diplomatie, c'est de ce qu'on puisse se parler. Hein. La tasse de thé, hein. Pourquoi on a une tasse de thé, diplomate, c'est pour éviter de se donner des baffes. Hein, parce que c'est pas facile, à l'origine c'est ça hein. On vous occupe les mains, les cocktails diplomatiques c'est très beau parce que c'est là où on noue des contacts mais on a les mains occupées donc on peut pas se battre hein. Il y a une exception quand même, je me souviens d'un nom, c'est en Bolivie hein. Moi j'étais au Pérou mais en Bolivie la Bolivie c'est un pays où il y a un coup d'état toutes les 48 heures quoi, pratiquement, hein. Un peu plus mais hein. À l'époque il y avait une présidente Gayler elle s'appelait qui était exfiltrée, moi je l'ai attendue au pied de l'avion avec son petit chien. Hein, la présidente en exil et mon collègue qui était à Bogota avait dû lui recevoir la présidente. Là, elle avait demandé l'asile, elle et son chien, qui était, paraît-il, tellement détestable que mon cher collègue, sous la table, pendant le repas, donnait des petits coups de pied au chien, hein, tout en disant « Madame la señora presidente, como estamos contentos de tenerla usted ?» Donnait des coups de pied au chien. Ça, c'est la diplomatie parallèle. Hein, hein. Et non, pour vous dire, le danger, c'est comme dans cette même Bolivie, quelques années auparavant, on a de ces cocktails, ou une tasse de thé pour ne pas se faire de mal, on avait quand même jeté le nonce par la fenêtre. Il ne s'en est pas remis. Donc il y a quand même quelques dangers dans le métier. Il reste que les organisations internationales, les ambassades sont nécessaires, quoi, indispensables, et prennent souvent des risques. La diplomatie, ce n'est pas seulement les cocktails, les réceptions, les lambris, etc. Ça, c'est la partie visible, comme l'iceberg.
Merci, Monseigneur. Dommage qu'on n'ait pas plus de temps, parce que vous ne manquez pas d'anecdotes à nous raconter. Alors, bien, nous allons passer à un autre aspect de votre vie et de vos préoccupations, pas préoccupations, de vos passions. C'est celui de l'écriture. Vos paroissiens, ici à Lisle-Dieu, ont l'habitude d'avoir chaque semaine la chronique de Monseigneur Rézeau. D'ailleurs, ces chroniques ont été réunies dans un petit opuscule, les chroniques de Lisle-Dieu, qui est extrêmement intéressant. Et surtout, vous avez également écrit des livres, notamment un livre qui a reçu le prix de la gendarmerie, le prix Histoire de la gendarmerie, qui s'appelle Le gendarme de Napoléon qui arrêta le pape. C'est ça. Et bon, et enfin, les talents d'érudition de Monseigneur Rézeau ont été reconnus par l'Académie des sciences d'outre-mer, dont il a été élu membre. Alors, Monseigneur, à ce sujet du goût de l'écriture ou du don de l'écriture, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Est-ce que c'est une tradition familiale? Est-ce que c'est un besoin d'exprimer? Est-ce que c'est une façon pour vous de poursuivre votre mission d'apostolat?
Merci. Je préfère en général parler plutôt qu'écrire, mais l'écrire permet de limiter, de concentrer ce qu'on a à dire quand on parle. C'est un peu plus compliqué. Quoique mes paroissiens le savent, je ne parle jamais très longtemps. Le dimanche, je parle combien? 7 minutes. 7 minutes, pas plus. Là, j'ai un peu dépassé le temps. Donc, pardon? Ouais, oui, c'est ça, oui, donc ça va, je peux continuer. Et quelle était la question? Ah oui, l'écriture. Oui, l'écriture, pas de tradition familiale, j'avais cité au moment de la Légion d'honneur mon cher papa, qui était facteur, à bicyclette, chez Rome, qui n'avait pas fait d'études particulières, mais qui se disait très fièrement, il parlait très bien, il se disait homme de lettres. C'était un classique, homme de lettres. Martial, il s'appelait. Il avait une collection de livres à l'époque. C'est une collection Nelson, si ça, passe, ça vous dit quelque chose. C'est des petits livres blancs avec un petit peu un dessin au fer sur la couverture. Il y avait des classiques. Et on avait une armoire. Et alors, il y avait la moitié de l'armoire, c'était des chapeaux, parce que ma grand-mère fabriquait des chapeaux et des coiffes. Autant des coiffes, elle faisait des coiffes. Alors, il y avait des tâches des chapeaux et des coiffes et des tâches des livres. On a été bercé, on a lu toute notre enfance, on a lu sans arrêt. Et le système même scolaire à l'époque, la lecture était même une récompense. Si vous vous souvenez, certains, on avait le droit de lire. Une fois fini les cours, vous en avez une heure de lecture. C'était un cadeau. Je ne sais pas si c'est considéré encore comme un cadeau par les enfants, mais c'était vraiment un cadeau, un plaisir, un bonheur de lire, quoi. Et en même temps d'écrire. On faisait des rédactions, je me souviens en sixième, d'une rédaction sur les digitales. Vous savez, cette fleur qui était partie, je ne sais pas pourquoi, sur la digitale, le printemps ou l'automne, je ne sais plus. Et le professeur m'avait appelé en me disant « Très bien, où avez-vous copié votre texte ?» Oh, ça m'avait fait de la peine. Je lui ai dit, non, je n'ai pas copié, j'ai écrit. Il m'a dit, bah. J'étais en sixième, donc je devais avoir déjà une petite plume, quoi. Après, j'ai écrit ces livres, mais dans différentes circonstances, c'est amusant, parce que le premier, je l'ai écrit sur la gendarmerie. On se demande pourquoi. Simplement parce que j'avais vu au Vatican, dans la bibliothèque vaticane, il y a une magnifique fresque, qui est reproduite sur le livre d'ailleurs, qui représente justement l'enlèvement du pape Pie VII par le général Radet. Sur les ordres de Napoléon. C'est que la France, envers le Saint-Siège, a toujours eu aussi une attitude ambiguë. Trois fois dans l'histoire, on a arrêté le pape. Une fois à Nanny, on lui a même donné une gifle. Une première fois à Pie VI, qui est mort en France, à Vienne, en exil. Et le pape Pie VII, qui était en exil à Fontainebleau. Donc la France n'a pas toujours été hospitalière envers les papes. Et après, j'ai écrit ce livre sur la gendarmerie. Ça m'intéressait parce que, comme je servais à l'époque, j'avais mis un uniforme de gendarmerie, Hein, comme dit ce monsieur, là, oui, bosser dans la gendarmerie. Hein, et donc, j'avais trouvé intéressant cet épisode, cette fresque, et recherche aidant, j'ai retrouvé l'histoire de ce bon général de gendarmerie qui, lui aussi, en bon gendarme, a exécuté les ordres, que ce soit sous la royauté, sous l'Empire, sous la Révolution, dans la droiture et l'honnêteté, conseillé par sa femme. Hein, se laisser conseiller par sa femme, ce qui était assez recommandé. Hein, recommandé. Hein. Après l'écriture, bah, j'écris plusieurs livres. J'écris un livre sur les Caraïbes, bon, ça c'est autre chose. Et puis après, c'est deux livres sur la Libye. Hein. Ça, je les écris sur place. Hein. Il y a un livre d'histoire, il y en avait encore quelques exemplaires, mais c'est un peu les derniers. L'histoire des relations entre la Libye et la France aussi, qui remonte au temps de François Ier. Donc vous voyez, c'est une longue histoire qui aurait pu continuer de façon plus pacifique, mais c'est mal terminé. Ensuite, j'écris un livre sur mon expérience en Libye qui s'appelle « Libya Free ». Donc la Libye après la chute de Kadhafi, où la situation est devenue bien sûr pire qu'avant. Hein. Comme dans tous les pays où malheureusement actuellement on intervient, je crois qu'il faut une grande réserve actuellement au plan international pour les interventions. Hein. Même si c'est fait avec un bon souhait au début de démocratiser, de développer, l'intervention étrangère finit toujours par se terminer mal, on le voit. Hein. Toutes les interventions en Irak, en Libye, en Afghanistan, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas intervenir d'une façon ou d'une autre, de façon humanitaire, mais une intervention militaire, on voit ce que ça donne. Quoi. Et le Saint-Siège est toujours défavorable, ne soutient jamais, jamais, jamais des interventions. Quoi. Sinon, de type humanitaire, bien sûr. Hein, je vois en Irak, le Vatican, moi j'étais à l'époque en Jordanie, j'assurais la logistique entre le Amman et Bagdad. Hein, quelques milliers de kilomètres de désert là, à traverser... Mon Dieu. Et pourquoi je dis ça? Je ne me souviens plus. Oui, donc le Vatican a toujours soutenu la solution pacifique des conflits, contraire aux interventions militaires. C'est pour ça que le Vatican, d'ailleurs, est membre observateur des Nations Unies. Hein. Il n'est pas membre à part entière pour ne pas cautionner, puisque quand il y a un conflit, une intervention qui est décidée par les Nations Unies, les États sont censés... alors que le Vatican ne veut pas s'engager, disons, approuver, ne serait-ce qu'approuver une intervention militaire. Donc ça, c'est important. Et pour le Saint-Siège, au point de vue international, toutes les interventions étrangères, vous savez que Napoléon a été le premier à créer l'intervention. Quoi. Et on peut dire beaucoup de bien de Napoléon, mais si on regarde Napoléon, il a voulu créer l'Europe. Hein, mais une Europe gouvernée par la France et le pape à Paris aussi. Donc associant le pouvoir politique et le pouvoir religieux pour dominer les autres pays, pour leur apporter les idéaux de la Révolution. On a voulu apporter la lumière aux Espagnols, aux Hollandais, aux Italiens, qui ne nous avaient rien demandé. Quoi. Donc ça reste dans l'histoire. Quoi. Voilà, je m'égare là.
Non, vous ne vous égarez pas, vous nous emmenez sur d'autres horizons. Et je suis désolé de devoir vous interrompre encore, mais maintenant nous quittons le domaine de la diplomatie pour revenir à celui de la Vendée et de nos paroisses vendéennes. En 2014, donc, vous rejoignez le diocèse de Vendée et Monseigneur Castet est tout heureux de vous voir arriver car il a un problème à résoudre qui est celui de la paroisse de l'Île-Dieu qui, à l'époque, a une communauté qui est un peu divisé, pouvons-nous dire. Et Mgr Castet a la lumineuse idée d'utiliser les compétences qui viennent de lui arriver, faut-il un diplomate, pour résoudre le problème de l'Île-Dieu. Alors, ce problème de division d'Île-Dieu n'est pas nouveau, puisque dans les années 1830, il y avait déjà eu un fort conflit à l'intérieur de la communauté catholique de l'Île-Dieu, entre le bourg et le port, bien, qui s'était réglé par des décisions au plus haut niveau. Mais là, nous revenons à 2014. Monseigneur, fallait-il un diplomate pour réunifier la paroisse et ensuite, avec votre expérience, comment voyez-vous l'avenir de l'Île-Dieu?
L'avenir, ça, je le laisse dans les mains de Dieu. Et une communauté divisée, plus ou moins. Moi, je rentrais effectivement de Libye. Comme vous savez, j'ai pris le dernier avion. Hein. Les islamistes entraient à pas de loup. Et moi, je suis parti dans l'autre sens et j'ai réussi à prendre un des derniers vols avant la destruction complète de l'aéroport de Tripoli, qui est toujours dans le même état maintenant, 10 ans après. Et à l'époque, bon, on m'a dit, bah, puisque vous avez connu la guerre, allez donc à l'Île-Dieu. J'ai dit, quand même. J'ai dit, non. Et effectivement, c'est ce que j'ai dit en arrivant, je crois, à tout le monde. J'ai dit, pas de guerre, s'il vous plaît. J'ai donné. J'ai donné plus que donné. Donc je ne soutiendrai aucun mouvement d'opposition, de pour, de contre. Finalement, je me souviens, je suis arrivé quand même à l'Île-Dieu au mois de septembre 2014, et je suis arrivé par le bateau, hein, et j'étais attendu par deux groupes, un qui était à l'étage et l'autre qui était en bas. Ouh, je me suis dit, bon. Puis après, il a dit, bon, on a préparé la messe, à nous aussi. Ouh, j'ai dit, vous venez tous ensemble. Et dès le premier jour, j'ai dit, on se réunit, on est ensemble, je suis ni contre ni pour un parti ou l'autre, on va travailler ensemble pour la paroisse, pour la gloire de Dieu, et voilà. Donc ça s'est très bien passé, finalement, sans grande mesure draconienne. Et puis je pense qu'actuellement, notre communauté ilaise vit en bonne entente, en bonne harmonie, avec vous, pour la plupart, qui êtes des immigrés, hein. Et pas clandestin. Hein. Et je pense que l'entonne est relativement bonne. Vous savez qu'il y a quelques années, j'ai composé ce qu'on appelle les 10 commandements. Hein. Alors des commandements qui valent aussi bien pour les uns que pour les autres. Hein. J'ai retrouvé le texte, il a dû être publié cet été-là. Hein. Ouais, hein. Il y a les 10 commandements du chrétien, il est en saison estivale, et les 10 commandements du chrétien en vacances. Alors, quelques petites variantes quand même. Je me souviens l'an dernier, le 8e commandement, les règles du bien commun et de la route respectera. Sans lumière, jamais ne roulera. Hein ? Je suis sûr que tous, vous êtes très attentifs, en particulier les jeunes, à l'ensemble de ces commandements, mais en particulier du numéro 8. Voilà. Donc, je pense que ça s'est bien passé. Quand il y a eu cette fameuse remise de la Légion d'honneur, vous avez vu, il y avait une participation aussi bien des gens de l'Île-Dieu, de nos canotiers, nos pompiers, les gens ordinaires, les enfants. Donc, c'est un signe un petit peu que j'ai servi à quelque chose, on va dire. Et donc, c'est ça qui m'importe. Après, une petite chose, j'ai vu l'autre jour que vous disiez, quand je suis arrivé à l'Île-Dieu, par le bateau, hein, bien sûr, sans naufrage, je regardais hier le... Comment on appelle ça ? À la pointe du but, il y a le sémaphore. Il y a cette céramique qui a été désignée par Jean-Benoît Héron. Vous voyez, peut-être qui pointe tous les naufrages, tous les bateaux qui ont coulé au large de l'Île-Dieu. Et j'ai remarqué deux bateaux. Je me suis dit, tiens, il y a un premier bateau, je ne sais plus comment il s'appelait, le Bordeaux, je crois, un cargo hollandais. Au matin, on a découvert ce bateau échoué. L'équipage avait pu se sauver. Il y avait un tigre en cage. La même année, un trois-mâts britannique. Même chose, au petit matin, les îlets ont trouvé ce bateau échoué. Les occupants avaient disparu. Ils ont trouvé un chien. Ben, j'ai dit, en 2014, il y a un bateau qui est arrivé. Et à bord, il y avait un prêtre. Oui. Espérons que ce ne sera pas le dernier de son espèce, mais il y avait un prêtre. Vous voyez, donc à l'Île-Dieu, on arrive un peu de partout avec les talents, le tigre en a, le chien aussi, le prêtre aussi.
Est-ce que je peux rappeler, Monseigneur, qu'au mois de février 2021, le conseil municipal de l'Île-Dieu a voté à l'unanimité une motion adressée à l'évêque de Luçon et lui demandant de façon impérieuse de maintenir un prêtre à l'Île-Dieu.
Non, de façon respectueuse.
Non, oui, le besoin impérieux, écrit en gras. Alors, Monseigneur, que faut-il en conclure ?
Oui, effectivement, puisque vous savez, actuellement, dans notre diocèse, comme dans beaucoup d'autres diocèses, il faut procéder à un regroupement des paroisses et des prêtres, faute de combattants, malheureusement. Donc, l'Île-Dieu était sur la liste des paroisses qui auraient pu être associées à d'autres paroisses du continent, quoi, hein, que ce soit Beauvoir-sur-Mer ou Noirmoutier. Il y a eu un sondage, peut-être certains d'entre vous y ont participé. Le conseil municipal aussi a fait savoir respectueusement à Monseigneur l'évêque le souhait qu'on conserve une paroisse et un prêtre. Et je pense qu'actuellement, le souhait a été entendu. Que ça reste une paroisse, oui. Qu'il y ait un prêtre permanent, il faudra le trouver, quoi. Et ensuite, et simplement, il y a eu quand même un petit mot du maire qui m'a touché. On a de bonnes relations avec la commune, vous savez, avec des hauts et des bas, comme toujours. Hein. C'est donc un milieu pépone. Mais le maire a écrit quand même, quand on m'a remis cette Légion d'honneur, il a mis cette distinction honore et illumine toute notre communauté insulaire. Je trouvais que c'était bien. Hein. C'est bien, c'est bien. En même temps, puisque l'administration française est toujours magnifique, je reçois une lettre du préfet cette semaine, de la Vendée, qui m'offre ses félicitations pour la Légion d'honneur. Je suis très heureux de cette distinction qui honore un ancien déporté et interné de la Résistance. J'ai répondu, monsieur le préfet, ah ben je n'ai pas la réponse, étant né en 1947, je ne me souviens pas d'avoir été ni déporté ni interné. Vous voyez, l'administration a parfois des... Je pense que monsieur le préfet a dû tirer les oreilles de son secrétaire, mais...
Merci, monseigneur. Donc c'est sur cette note un peu humoristique...
Inquiétante.
Que je vais vous ôter la parole. Merci. Avec toutes mes excuses.
Je n'ai pas terminé tout à fait.
Oui, bon, mais... Non, mais simplement...
Une seconde.
Oui, vous avez la parole.
Oui. Mais... J'ai un petit paquet. Vous savez qu'il y a un diplomate. Ah oui. Ah oui, mais il faut me... Oui. Un diplomate, comment se déplace-t-il? Alors, d'abord, il peut se déplacer de bien des façons. Je crois que j'ai employé tous les moyens de transport imaginables. Depuis le T6 chinois, un char, un chinois, hélicoptère, avion, chameau, poids lourd. J'ai dû utiliser tous les moyens de transport. J'ai oublié de dire quand même que j'étais aussi par obligation, je suis parachutiste. Hein. Pas vraiment par attirance personnelle, mais j'étais donc au Zaïre et entre autres choses, j'étais aumônier bénévole de la 31e brigade parachutiste zaïroise. Il n'y en avait qu'une. C'était la 31e, ça faisait bien parce que... J'étais aumônier de la 31e qui était encadré à l'époque par des officiers français, hein, des troupes de marine. Hein. Et le colonel de Montmahou, je me souviens, m'a dit un jour, mon père, si vous voulez continuer à venir à la base faire le catéchisme, dire la messe, on peut entrer que si on est parachutiste. Êtes-vous parachutiste? Ben, j'ai dit non, c'est pas mon... Alors vous ne pouvez plus venir célébrer la messe. Le lendemain, c'était un lundi, je me suis présenté à l'aéroport militaire. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous venez faire? Il n'y a pas de messe aujourd'hui, c'est pas dimanche. J'ai dit non, je viens sauter. Il vient sauter. Ah oui, bon, eh ben, vous voyez, il y a un avion qui décolle. Hein. Vous allez prendre un parachutiste, vous allez monter et puis sauter. Et voilà. Donc j'ai commencé ma carrière de parachutiste, après j'ai enchaîné les sauts, j'étais décoré par le colonel lui-même sur le front des troupes du brevet de parachutiste zaïrois. Le colonel m'avait dit, si vous sautez un jour, je me confesse. Et j'ai sauté, j'ai mon brevet quelque part de parachutiste, le colonel ne s'est pas confessé. Hein. J'ai tenu ma parole. Il y a quelques années, je reçois un petit mot, Madame de Montmahou, un télégramme, me dit, mon mari vient de décéder, il a laissé dans ce testament, il faut que ce soit vous qui célébriez sa sépulture. Oui. Je suis allé, je ne sais plus où, célébrer sa sépulture devant un parterre de militaires, de parachutistes, avec mon insigne, j'ai dit, mon colonel, hein, je vous souhaite un bon voyage vers le paradis, mais, vous ne vous êtes pas confessé. Moi, j'ai sauté en parachutiste, j'ai dit, le bon Dieu vous pardonnera, voilà. Voilà. Alors, non, la dernière chose. La dernière chose. Donc, on parlait des moyens de transport. Oui, attendez. On disait pour qu'un diplomate circule, bon, ça c'est les moyens de transport. Mais il lui faut. Voilà. Alors, vous avez ici, vous pouvez regarder plus près, vous avez 10 passeports diplomatiques du Vatican. Hein, et qui correspondent à mes 10. Ah oui, à mes 10 déplacements. Envoyez un passeport, vous pouvez regarder, c'est un beau passeport, c'est frappé des armes du Vatican. Le premier passeport, c'était en cuir avec Abba, Rabat. Le dernier, c'était en carton bouilli sans rabat. Vous voyez les finances du Vatican hein. Mais il y a tout, et écrit en très bon latin. Les États-Unis en latin, c'est pas mal, c'est un peu long, quoi, mais je ne sais plus. Hein. Vous verrez tout ça, donc c'est traverser le monde, quoi. Oui. États-Unis, c'était compliqué, mais Ah oui, donc on m'a nommé aux États-Unis Consiliario Nunciature Apostolica in Federatis Civitatibus Americae Septentrionalis. Ça veut dire non États-Unis d'Amérique. J'arrête.
Bien. Alors, Monseigneur, je vous interromps parce qu'il faut quand même laisser la parole à la salle. En principe, on dit une demi-heure d'intervention, une demi-heure de questions. Oui, mais voilà, ce n'est pas grave. Donc, la parole est à la salle.
Trois questions, s'il vous plaît.
Madame.
Oui, oui, il est sur Internet.
Oui, oui. Bon. Il faut répéter les questions.
Oui, oui. Alors, la question, est-il possible d'avoir la transcription du mot prononcé par Mgr Rézeau lors de sa décoration de la Légion d'honneur? Bon, la réponse est oui, puisqu'elle est imprimée là. Donc vous pouvez la demander. Autre question? Oui. Alors, au cours de vos pérégrinations, Mgr, vous avez rencontré des hommes politiques. Mais avez-vous aussi rencontré des institutions, des réseaux, par exemple les jésuites, avec l'idée que notre pape actuel est issu des jésuites?
Alors c'est deux questions. Les jésuites, bien sûr, parce que quand on est en nonciature, on a des relations aussi bien avec les États, les hommes politiques que l'Église. Hein. Le représentant du pape, il est représentant auprès de l'Église locale, c'est-à-dire des congrégations religieuses, des diocèses. Hein, donc des jésuites, entre autres. On a souvent eu des jésuites comme collaborateurs, d'ailleurs, comme secrétaires locaux, comme contacts. Hein, bien sûr, c'est normal. Puisque la fonction des nonciatures, je ne l'ai pas signalé, c'est aussi, c'est non seulement les relations politiques et diplomatiques, mais c'est aussi la nomination des évêques. Hein. C'est que les nominations des évêques sont faites par les nonciatures. J'ai surtout aux États-Unis où j'ai travaillé. À l'époque, on m'avait dit il faut me faire mon chef m'avait dit il faut me faire un évêque par semaine. Vous êtes bien, il y a 250 évêques aux États-Unis. Donc là, j'ai travaillé essentiellement dans ce domaine là de préparation de la nomination des évêques qui sont nommés par le pape, bien sûr, ensuite, mais sur des dossiers établis par les nonciatures. Donc ça demande beaucoup de travail d'information, d'investigation, de contact.
Alors, quel est le déclic qui a poussé Monseigneur vers le séminaire alors qu'il était initialement vers une voie militaire?
Je réponds à cette dernière question d'Angelus Sonne. C'était très rapide, hein, très rapide. Du jour au lendemain, donc j'ai envoyé la lettre à ma chère maman. C'était, je me souviens très bien, après quand même un bon père qui avait dû nous prêcher, un père rédemptoriste, qui avait dû nous prêcher. Et qui avait dit, il avait terminé par le chant « Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier hein, ». Vous connaissez ce vieux cantique. Et ce chant m'avait « Envoie tes messagers ». Il y avait une petite pause après de récréation. Et j'ai dit, mais les autres jouaient au football et tout, mais il vient. J'ai dit non, non. Et en quelques minutes, on va dire, j'ai senti cet appel. J'ai dit, c'est pour moi. Voilà, et j'ai jamais changé d'avis depuis. Hein. Même si... Pas si j'ai bien fait, mais... Voilà,
bien.
Merci.
Bien, Monseigneur, pas d'autres questions, non, Monseigneur? Je vois encore une main qui se lève, là. Encore une, la dernière. Alors, Monseigneur, est-ce que là, vous ne vous ennuyez pas à Lisieux par comparaison avec la vie trépidante que vous avez eue dans le passé?
Bon, je ne dirais pas que la transition a été assez brusque quand même, hein, d'une activité internationale, de passer d'une langue à une autre. Quand on est diplomate, on ne sait plus dans quelle langue on parle. Et à l'Île-Dieu, bah, je n'ai jamais utilisé ni l'anglais, ni l'espagnol, ni l'arabe, ni l'allemand, ni le latin. Et donc il y a quand même une... Je ne dis pas de limite de mes compétences, parce que ce serait dire, mais pas toi, oui. Mais en même temps, j'ai découvert une population qui ne m'a pas laissé m'ennuyer. Hein. Vous savez que les îlets ne vous laissent pas le temps de vous ennuyer. Hein. Donc il y a énormément, même au point de vue religieux, regardez cette semaine, j'ai 4 sépultures à assurer. Donc ça n'a rien à voir avec la politique internationale, mais bon, c'est mon devoir aussi de prêtre. Les enfants, les malades, on visite, même pendant le confinement, on a toujours visité les malades, les personnes âgées. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer, mais dans un autre contexte, évidemment, que je ne regrette pas. Hein. Les périodes de la vie, il faut savoir aussi sortir de scène, quelquefois. Hein, vous savez, les vieux acteurs avec du poil dans les oreilles, là, non, il faut voilà. Hein, chaque chose en son temps, et voilà. Pour la gloire de Dieu. Merci.
Bien, merci, Monseigneur. Merci de ce survol trop rapide. Peut-être que vous reviendrez une autre fois pour continuer. Oui, et puis les années suivantes encore, monseigneur. Hein, puisque le conseil municipal réclame votre maintien. Voilà, merci.
Voilà, merci beaucoup, monseigneur, pour cette dernière rencontre. Juste avant que vous partiez, j'ai deux ou trois petits messages. D'abord, donc, sur la table, vous allez pouvoir trouver des chroniques de l'Île-Dieu que monseigneur Réseau vous dédicacera. Ça, c'est le premier message. Ensuite, en fait, nous arrivons donc au terme de ce cycle de rencontres. On a eu finalement la chance du temps. La première, en fait, s'est tenue dans la salle paroissiale que vous nous avez gracieusement prêtée. Mais on a pu accomplir donc, en fait, et dérouler tout ce cycle avec une affluence cette année extrêmement importante. Et il sera important justement donc pour que nous puissions continuer sur cette bonne veine et lancer que vous puissiez répondre en fait au questionnaire que vous allez recevoir la semaine prochaine pour tous ceux d'entre vous qui sont inscrits sur nos fichiers. Ceux qui ne le sont pas peuvent effectivement donner leurs coordonnées et nous dire donc qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qui vous avez envie d'entendre, enfin voilà, donc que ce cycle continue donc sur sa lancée. Enfin, je voudrais terminer en remerciant tous ceux qui ont contribué donc à l'organisation donc de ces rencontres. D'abord en fait nos partenaires, en fait la mairie qui nous prête les bancs qui sont bien utiles, peut-être même pas encore assez nombreux pour vous accueillir tous. La maison de la presse avec qui nous travaillons pour acheminer effectivement les livres quand ce sont des auteurs que nous interviewons. Avec Neptune FM qui cette année, donc pour la première fois, est notre partenaire. Toutes les rencontres ont été enregistrées grâce à Viviane et donc pourront être accessibles et sont déjà accessibles en podcast. Quand vous allez recevoir en fait ce questionnaire la semaine prochaine, vous aurez aussi tous les podcasts auxquels vous pourrez vous référer si vous n'avez pas pu participer. Voilà, et puis je voudrais beaucoup remercier en fait à Anita Poiret qui est la cofondatrice et organisatrice avec moi de ces rencontres et avec Robert Verluca, dont nous saluons encore la mémoire. Il nous a bien manqué. Robert, en fait, encore l'année dernière, animait la dernière rencontre, en fait, ici, fin août. Mais aussi, voilà, un message, en fait, pour Robert. Et puis, aussi, tous ceux qui nous aident, donc, en fait, beaucoup. En fait, Virginie, Brigitte, Viviane, Pierre, Hubert... Donc voilà, Philippe et Marie-Laure évidemment donc aussi puisque un lieu, une rencontre effectivement fait partie, est une activité donc qui fait partie des activités d'une île des auteurs. Voilà, écoutez, merci beaucoup et à l'année prochaine.